Mesdames et messieurs, bienvenue à Angle Mort. 4 demandes spéciales que j'ai eues. 4! Je suis comme, c'est un mélange d'émotion, de fierté. Jean-Philippe Gauthier, René Bourassa, Robert, un quatrième qui est arrivé que je connais moins, que j'ai pas son nom, mais je le trouve fantastique pareil. Donc, pour une grande première, et pour pas longtemps, on parle de, laissez-moi 15 à 30 secondes, je vais couper mon fond musical pour vous siffler, à la demande de Jean-Philippe, une toune de Rick Astley. Bravo, merci, bravo! Bravo les jeunes. Quel départ foudroyant, quel concept de podcast qui ne cesse de se bonifier. Oui, bravo. Patrick Lagacé, aujourd'hui, dit une phrase, somme toute, puis je vais vous la lire intégralement, question de hein, tant qu'à faire. Il parle du système de santé, puis il dit que, grosso modo, il ramène une ritournelle qu'on entend souvent, qui n'est pas fausse. En tout cas, on pense que ce n'est pas faux. C'est que le système de santé au Québec, ça fait un quart de siècle, ça fait 25 ans qu'on entend dire que, par exemple, le temps supplémentaire obligatoire des infirmières, c'est une façon de compenser pour une baisse tout le temps des effectifs, parce que travailler dans ce milieu-là, c'est pourri. Puis moi, je l'ai déjà dit dans le temps de moi si j'étais une fille, c'est-à-dire que toutes les conditions de travail, parce que c'est l'autre côté de la médaille, toutes les conditions de travail des infirmières particulièrement, pas nécessairement des autres intervenants, mais tout ce qui est infirmière serait drastiquement différent si c'était des hommes plutôt que des femmes. Parce que les femmes, dans ces métiers-là, sont d'ordre vocationnel. Et puis, ça leur rentre pas dans la tête de dire « Ouais, ben là, mon chiffre finit, puis ça va faire, ils s'organiseront. » Mais il y a Mme Tremblay que ses pilules, je les ai pas données. Puis là, il y a Roger qui veut me parler de ses problèmes. Ça fait que le côté très empathique des filles, Dieu sait, c'est pas un défaut, leur nuit, hein, parce que chaque qualité a son défaut. Donc, ça fait en sorte que au final, je suis sûr que c'est dans le très populaire mot « systémique », c'est dans le système de gestion de santé de se dire « Sais-tu quoi? Anyway, ils vont le faire. » Je suis convaincu de ça. C'est que ça, c'est une affaire. Ce que Lagacé, lui, dit à la fin, c'est vivre avec un système de santé sous-optimal, c'est lamentable. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. On peut blâmer le politique, il le faut. Mais force est de constater que nous, Québécois, nous nous accommodons. Nous savons accommoder la médiocrité. Bien, alors, je crois que c'est très, très vrai, mais je pense que c'est partout sa planète. C'est-à-dire que... Comment je pourrais vous dire ça? La seule région qui m'apparaît ne pas s'accommoder de la médiocrité, c'est l'Asie. Il y a, dans le folklore qui nous parvient ici, et qui est vrai, je pense, une espèce d'image du japonais, du chinois, avec une fierté collective qui va bien au-delà de lui-même. Son entreprise, il travaille des heures infinies... le Japon a encore un empereur qui est vu comme un demi-dieu. Tu sais, il y a quelque chose qui est très transcendant dans les cultures asiatiques que l'Europe, que l'Afrique, tant qu'à moi, n'a pas connu non plus, puis que l'Europe n'a pas évolué. Puis j'attribue ça, la faute de ça, donc la médiocrité que parle Patrick Lagacé, à laquelle je souscris, mais que je pense qu'il est partout, donc de dire que c'est Québécois vraiment pas plus qu'ailleurs, c'est à cause du confort. Donc, nos sociétés sont devenues très confortables. Nos sociétés font en sorte qu'on n'a plus à se battre pour manger. On n'a plus... Puis, il y a un côté très, notamment chez les Américains, où ça a été mis comme une valeur fondamentale. J'ai le droit, la Constitution me donne le droit de magasiner à 2h le matin, le dimanche, chez Walmart. Il y a un peu de ça dans l'imaginaire plus républicain que démocrate, là, sûrement, mais cette espèce de consumérisme-là qui fait en sorte que on est... assis dans un confort qu'on réalise pas tant, qu'on juge comme étant qui va de soi. Si on a un peu les moyens, on est bien logé, on se plaint parce que le voisin fait du bruit. Tu sais, je veux dire, prenez l'exemple là, de Vidéotron. Quand Vidéotron a un compte en souffrance, c'est probablement l'entreprise qui récupère le plus vite les montants dus par ses clients parce qu'ils ont la capacité fantastique de dire « on lui coupe le câble ». Et coupe le câble à quelqu'un, là, c'est comme si tu coupes l'accès Internet à un ado. Tu vas voir que c'est pas long que le compte se paye. T'sais. Il n'y a plus d'argument. Là. Tandis qu'un loyer, bon, la régie, la patente. Le confort, c'est une valeur agréable. Moi, je pense que je suis prêt à payer cher, entre guillemets, pour où j'habite. Tu comprends? C'est d'avoir de la latitude, d'envie. C'est que c'est pas en soi comme, oh mon Dieu, le confort, c'est épouvantable. Puis c'est comme les bouddhistes, là. Loin de moi toute tentation d'avoir un peu de fun. Là. On n'est pas là, là. Mais il reste que pousser à l'endroit où on est, ça crée inévitablement une espèce de réactivité puis de participation qui baisse. Puis qui fait en sorte qu'on se dit « Anyway, ça ne changera pas grand-chose. » Parce que c'est vraiment ça, hein, le critère. Notre comportement consommateur nous dit énormément sur notre comportement en général, psychologique. Souvent, les gens vont dire que le taux de participation aux élections, que celui qui s'en vient au fédéral, je pense, va être légendairement bas, parce que c'est des élections qu'on se demande un peu pourquoi, puis que, tu sais, c'est comme, ça fait pas de bruit, ça crée un engouement à peu près nul. En tout cas, moi, je le sens moins que jamais. Mais il y a une autre raison, parce que les gens vont dire, ah, oh, la désillusion des politiques, puis là, on entend toutes ces affaires-là, mais... Déjà, les taux de participation étaient déjà, depuis très longtemps, là, très ordinaires. Là, t'sais. Pourquoi? Pour une théorie personnelle que j'ai développée il y a à peu près 2 ans, c'est que si vous faites vraiment l'exercice, c'est très difficile parce que tu ne peux pas faire une étude précise parce que ça devient une vision que tu as de la société dans laquelle tu vis. Mais moi, je prétends que si tu recules sur plusieurs dizaines d'années, OK, tu te rends, là, si tu veux, tu peux aller très loin, mais mettons Pierre-Éliott Trudeau. Puis là, après, il y a eu là, tous ceux qui ont suivi, là, puis les Mulroney, Jean Chrétien, Stephen Harper, l'autre Trudeau, name it. Et que tu avais interverti littéralement leur mandat. C'est-à-dire, les 4 années de un, ça aurait été en réalité une 4 années de l'autre parti. Bien, on serait avec à peu près la même société qu'on a là. Il n'y aurait pas de changement fondamental parce que les institutions restent. La Cour suprême reste. Le fait que tu as un parti puis de l'opposition, ça reste. C'est pas genre, oh, pendant 4 ans, c'est le parti, puis là, ça chire, on sait plus trop où ils sont rendus. Ce qui est arrivé aux États-Unis, d'ailleurs. Aux États-Unis, tu peux pas dire la même affaire. Une élection de Donald Trump, ça change réellement le quotidien de plein de monde versus une élection comme actuellement avec Biden. Puis ne serait-ce que dans le bruit qui est fait, où est-ce que ça devient insupportable, tu sais. Fait que moi, je prétends que la Constitution canadienne fait en sorte que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et que les gens... qui aiment la politique sont totalement hors d'eux quand je leur dis ça. C'est comme, genre, c'est improyable parce que moi, je suis conservateur depuis que je suis né, puis c'est épouvantable, puis Justin Trudeau, puis les dettes, puis la patente. Puis là, la PCU, puis ça, puis là, tout le monde se capote, là. Mais ça, c'est tout le monde qui aime la politique. Dans la vraie vie, là, il y a combien de monde qui sont aucunement au courant qu'on a des élections, là? Les vox pop de Guy Nantel, là, pensaient pas que c'est juste du montage, puis que sinon, tout le monde serait brillant, là. Ça fait que c'est vraiment ça, moi, mon point, c'est que le confort qu'on vit ici, au Québec, au Canada, puis dans l'Occident en général, ça fait en sorte que, contrairement au gars qui se fait couper le câble, que, bof, oui, j'ai des allégeances, puis si quelqu'un commence à m'en parler, je peux me pogner dans un souper de famille parce que mon frère est conservateur puis je suis libéral, hein, mettons. Parce que moi, je suis ni un ni l'autre, pour être honnête. Puis quand je dis ni l'autre, pas opposé, c'est juste, je suis cohérent avec ma théorie. Je pense honnêtement que si Erin O'Toole rentre, ça va faire un Canada à 88% pareil à celui qu'on a là, puis la même affaire avec Trudeau. Alors, il y a des endroits où tout à coup, ça peut faire des grosses différences particulières. Dans la vie, mettons, je pense honnêtement à toutes les échos que j'ai que la fonction publique fédérale dégrade. Puis même la fonction publique en général. Je suis pas surpris que Justin Trudeau puis ses petites sensibilités a rendu la compétence des gestionnaires moins forte. Mais là, c'est très superficiel. Ça vient de quelques trucs que j'entends, mais qui sont unanimement dans cette zone-là. Fait que j'élaborerai une autre fois si vous voulez. Là. Donc, pour ces gens-là, ça se peut qu'il y ait un vrai changement. Mais pour la moyenne des ours, là, le gars là, qui travaille au dépanneur, puis l'autre qui est plombier, puis moi, qui est à mon compte, puis tout ça. Fait que je crois que quand tu vis ça, ton besoin nécessairement de dire « moi, je m'en vais voter, puis je milite telle affaire », il est très faible. T'es pas du tout dans un... Ta motivation à faire partie d'un éventuel changement, c'est à 30 %. Fait qu'intellectuellement, ça s'accepte mal, ce que je vous dis. Mais dans la vraie vie, depuis que vous êtes au monde, peu importe votre âge, le Canada est sensiblement le même pays. Vous pouvez pas dire « je reconnais pas le Canada ». Mon Dieu, moi, j'arrive de Charlebourg, je suis rendu en plein centre-ville de Montréal. Je reconnais pas le Québec. Le Québec, c'est... Non, c'est exactement le même Québec que j'ai connu. Il y a des événements comme la pandémie qui font ressortir des affaires que tu dis « ah, il y a une partie de clientèle, je les connaissais pas, eux autres. » Ils existent, ils sont là-bas, ils les voici dans la rue. Donc, clairement pas. Clairement, les voici pas à l'école. Là. Les voici pas, mais bravo. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, au commentaire de Patrick Lagacé, je réponds « oui, je suis d'accord, mais c'est partout de même. On accepte la médiocrité. » Je vais vous donner un autre exemple. Quand il y a des commissions d'enquête, hein, tout ce qui s'appelait là, sur la corruption dans la construction, là, ça passe à la TV, des fois, là, c'est live, c'est un véritable téléroman. Les accommodements raisonnables, blablabla. Et là, tout à coup, c'est fini. C'est comme « bon, ben aujourd'hui, le juge a fermé ses livres, là, puis le scandale des commandites avec le juge Gomery, puis c'est... Là, c'est fini. Là, tout à coup, hop, là, le téléroman est fini. Qui se soucie, honnêtement, qui se soucie de la suite? Quand est-ce que, tout à coup, vous voyez vraiment autant de bruit sur... Bon, OK, là, maintenant, c'est-tu appliqué, ces affaires-là? À partir du moment où... Quand la loi est sur le point d'être votée, là, les gens se chicanent. Quand la loi est votée, c'est terminé. Alors que c'est là que le travail commence, c'est-à-dire, si tu appliques dans le sens du monde, imaginons on a un meeting, puis là on décide, là, nouveau produit Google, des lunettes Oculus, là, Google. On pense qu'il y a de la business à faire dans le VR, puis ah ouais, c'est beau. Puis là, t'as la grosse chicane, non, puis là, trop de budget, puis là, tu vas couper dans les budgets pour workplace, puis ça n'a pas de sens, puis non. Et là, la décision se prend. Puis là, imaginez, là, tout ce beau monde-là retournerait faire leurs affaires tranquilles. Puis tu sais pas exactement comment évolue le dossier sur les lunettes de réalité virtuelle que Google est en train de mettre de l'avant. Tu t'en occupes plus. La décision est prise, fini, le dossier clos. Voyons, c'est là que ça commence. Comment c'est fait, comment c'est manufacturé, comment c'est marketé, puis là, ça avance, puis là, aujourd'hui, il y a un bug, puis là, l'autre, il veut changer ce qu'on... Tu sais, ça s'appelle du management. Tu gères pour que le bateau arrive effectivement où on a voté. Ça, là, on s'en va à Paris. C'est pas « Hey, on est à New York, on s'en va à Paris, mets le guide vers là, là, pogne le volant, Paris, je le vois, c'est en ligne droite, puis après ça, on part sur le party, on se revoit dans 6 jours. Voyons donc. Il y a des vents, il y a des marées, il y a un autre bateau qui s'est perdu. Quelqu'un est malade, il faut ralentir, je sais pas, n'importe quoi. Tu es tout le temps en train de contrôler. Ça fait que ça fait partie de notre médiocrité où est-ce qu'on est très content d'avoir des faits qui viennent nous chercher, puis l'effort de dire maintenant on va faire un suivi, voir ce que ça donne. Tout le monde s'en sac. On est rendu sur l'autre affaire qui passe dans le journal. Ça fait que oui, c'est médiocre. Oui, ça fait en sorte que tout à coup, tu peux avoir... un système de santé qui est zéro, qui est bloqué de partout, notamment par les syndicats, c'est assez clair. Moi, je veux dire, l'état d'urgence a eu ça d'épouvantablement flagrante et évidente. C'est à quel point, tout à coup, le système de santé québécois peut inventer des affaires qu'il ne connaît même pas, c'est-à-dire vacciner la population, genre let's go, dans des gymnases, palais des congrès, puis rouler comme des malades à l'unanimité. Tout le monde disait comme « wow ». Pensez-vous que c'est très différent du fait que le gouvernement pouvait agir à sa guise comme une entreprise privée? Bon. Ça fait que moi, je ne suis pas contre les syndicats, mais il faut avouer qu'à un moment donné, ils font partie de cette notion de confort-là, où à quelque part, on peut s'asseoir sur une convention collective qui nous protège. C'est tout vertueux, là. Je ne suis pas contre. Mais comme n'importe quoi, ça ne garde pas le cap éternellement, puis ça finit par... Ça peut déborder. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Ça fait que les Québécois sont-ils bons pour accepter la médiocrité? Oui. Puis trouvez-moi une place en Occident où vous pensez... Vous allez me nommer peut-être les Allemands, qui avaient ça dans l'âme, un peuple d'ingénieurs. Puis encore là, tu sais, je suis qui, moi, à part les infos que je reçois comme vous autres, de dire, ah, tel pays s'embête un peu plus à leur affaire en termes de soucis de la qualité, mettons. Ouais, on peut dire que... Comme quand je vous dis, j'ai l'impression qu'en Asie, on est moins individualiste, mais on a une espèce de vision de ce qu'on... de l'apport qu'on a. Mais encore, là, peut-être que je passerais un an au Japon, puis je ferais à Tokyo, puis je dirais, ils sont tous gazés. Je sais pas. Je fais juste vous dire que, d'après moi, l'obstacle à ne pas accepter la médiocrité, c'est le confort. C'était Falardeau qui avait fait un documentaire, si je me trompe pas, c'est Falardeau, après le référendum, qui s'appelait « Le confort et l'indifférence ». Puis c'est ça, il montrait du monde là, qui était dans... Je veux dire, c'était une caricature du Québécois bas de gamme. Là, t'sais, il allait à un salon là, de des Econoline avec du tapis en arrière pour montrer c'était quoi les valeurs d'eux. Puis tout. T'sais, même hier, j'ai écouté un film, Zola, que je recommande, puis qui est vraiment, t'sais, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Je finis là-dessus. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre de la vulgarité américaine. C'est-à-dire que c'est deux danseuses qui s'en vont avec un chum puis un ami, soi-disant. Ils s'en vont en Floride, donc ils partent de je sais pas où, là, dans le nord-est. Puis ils s'en vont en Floride. Puis avant en Floride, ça chie, parce que dans la vraie vie, c'est plus un trip de prostitution. Puis celle qui a invité l'autre, elle le savait pas. Puis tu sais, je veux dire, le chum de la blonde, c'est tellement un loser. Là, c'est vraiment... Puis tu sais, t'as les criminels, puis tout, puis tu vois, tu sais, ils sont en Tampa, puis c'est la Floride poche que je connais un peu. La Floride le long du littoral, c'est une Floride vraiment cool, parce que c'est une Floride qui a du cash, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand tu rentres dans les terres un peu, là, tu sais, tout est zéro, là, c'est zéro. Là. Fait que le film le dépeint, mais avec une exactitude, c'est comme malade. Et c'est très bon. C'est très bon, c'est un bon film, tu sais, c'est vraiment... C'est réalisé avec énormément de finesse, puis en même temps... C'est d'une vulgarité sans fond. Ça fait que ça dénote un gros côté des Américains que moi je critique, c'est-à-dire qu'ils sont, enlisés dans un confort pour plusieurs qui devient un droit. Et je pense que c'est ça qui crée la médiocrité ambiante. Puis je vois pas comment ça va arrêter. Salut!